Il est 18h à Kinshasa, 19h à Goma au Nord Kivu. Merci de choisir Radio Okapi pour vous informer. Bonne écoute.
Radio Okapi.
Au sommaire de ce journal Nord Kivu, près de 19 000 ménages de déplacés vivent dans des conditions humanitaires et sanitaires alarmantes dans certaines localités de la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru. Réfugiés dans différentes agglomérations, ces gens vivent sans aucune assistance humanitaire. Lutter contre la contrebande et les pratiques informelles qui privent l'État congolais des moyens nécessaires à sa politique, c'est le but de la visite sur terrain hier mardi du vice-premier ministre de l'économie dans certains postes frontaliers du Congo central. Dans ce journal, les explications de Daniel Moukoko Samba. Notre invité, le docteur Joël Matondo, assistant technicien au programme national de lutte contre le paludisme PNLP au Congo central. Il parle de la sensibilisation des autorités et de la population du Congo central à l'occasion de la célébration le 28 avril de la Journée internationale de lutte contre le paludisme. Encore une fois, merci d'être avec nous, Pierre Diassinois et André Mongoua sur la technique. Et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, messieurs, bonsoir. Au Nord Kivu, je le disais tantôt, près de 19 000 ménages de déplacés vivent dans des conditions humanitaires et sanitaires alarmantes dans les localités de Kikuku, Kihala et Mirangi, situés dans le groupement Mutanda, en chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru. Selon les organisations locales qui lancent l'alerte, ces populations vulnérables ont fui depuis septembre 2025 les affrontements armés opposant les rebelles de l'AFC M23 au Wazalendo dans leur village d'origine. Réfugiées dans ces différentes agglomérations, elles vivent sans aucune assistance humanitaire et exposées à une précarité extrême. Plus de détails avec Bernardine Diambou.
L'organisation Solidarité communautaire des luttes contre le tribalisme basée dans cette partie de la chefferie de Bwito s'est dit préoccupée par les conditions de vie de ces personnes déplacées venues pour la plupart des villages Kalonge, Katobo, Ihula et Butimula en territoire voisin de Walikale. Installées dans ces villages du groupement Mutanda, territoire de Rutshuru, ces personnes vivent sans assistance et dans une précarité totale depuis plus de 8 mois maintenant. Les rapporteurs de cette structure humanitaire locale lancent un appel pressant à l'aide. Clovis Kambale.
Cette population a besoin d'être assistée à vivre et à non vivre. Une souffrance qui se multiplie. Pendant que cette population vit des travaux journaliers pour trouver à manger, vraiment, c'est une question que la communauté humanitaire doit songer et trouver une réponse d'urgence pour venir sauver cette communauté.
Sokolou ajoute que la prise en charge médicale de ces déplacés demeure une autre préoccupation majeure. Les centres de santé de Kikuku, Kihala, Kabati et Birundule ne sont pas suffisamment approvisionnés en médicaments faute d'appui. Alors que pendant ce temps, plusieurs enfants déplacés souffrent de malnutrition sévère et les femmes enceintes et allaitantes restent particulièrement exposées aux risques sanitaires. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
En Ituri, pendant ce temps, le cardinal Fridolin Ambongo juge inacceptable que des milliers de déplacés vivent dans des conditions déshumanisantes dans leur propre pays. Il appelle toutes les parties, notamment le gouvernement et la communauté internationale, à assumer leurs responsabilités afin de mettre fin à ce qu'il qualifie de spectacle déshumanisant dans une province qui compte environ 1 500 000 personnes déplacées. L'archevêque métropolitain de Kinshasa s'est exprimé ainsi lundi dernier lors de sa visite des sites de déplacés de Kigonze et de l'ISP à Bounia qui accueille environ 30 000 personnes depuis 2019. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention sélectionné par Isaac Remoyopi.
Quand je vous vois, c'est un sentiment de révolte. Il est difficile de comprendre, d'accepter que des peuples, hommes, femmes et enfants, dans leur propre pays, se retrouvent dans une situation déshumanisée comme je vois aujourd'hui. Et le plus révoltant, c'est que cette situation dure depuis longtemps. Il y a des enfants qui sont nés dans ces conditions, dans des camps de déplacés, qui ne connaissent même plus leur village. Devant une situation comme celle-ci, nous sommes tous appelés est à notre responsabilité. La situation que vous vivez a été provoquée par certaines personnes, que ce soit à l'intérieur de notre pays comme à l'extérieur de notre pays. J'en appelle donc à la responsabilité des uns et des autres, y compris ce qu'on appelle la communauté internationale. Ces spectacles déshumanisants puissent s'arrêter et qu'enfin vous puissiez rentrer dans vos lieux d'origine. Nous serons toujours à votre côté pour vous accompagner jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
Par ailleurs, un engin explosif a causé la mort d'une personne et fait des blessés graves hier mardi aux abords de l'aéroport de Bukavu, situé à Kavumu dans les territoires de Kabare. Les victimes sont des mineurs qui recherchaient des métaux usagés, communément appelés mitraille, à Bukavu. Ces enfants ont découvert une caissette qu'ils pensaient contenir un trésor caché. En réalité, elle renfermait des explosifs. Jean Kassami nous en donne plus de détails.
Les quatre enfants ont été surpris par l'explosion d'un engin pendant qu'ils manipulaient une petite caisse contenant des objets métalliques. La caisse était abandonnée dans une vallée aux alentours de l'aéroport à Businde dans le groupement de Bugore, en territoire de Kabare. L'explosion a causé la mort d'un enfant et les trois autres grièvement blessés ont été conduits à l'hôpital général de référence de Bukavu pour une prise en charge médicale. Selon la société civile de Bugore, l'aéroport de Kavumu et les villages environnants sont jonchés d'armes légères et autres engins mortels. Cette zone était le dernier verrou de l'armée régulière contre l'AFC-M23 en février 2025. D'après certains observateurs, la région nécessite une vaste opération de déminage pour épargner la population des circonstances fâcheuses. Enfin, il est important de signaler que l'aéroport de Kavumu n'a fait l'objet d'une quelconque attaque par drone ces derniers temps, comme le font croire les réseaux sociaux. Précision apportée par la notabilité et la société civile locale. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Je le disais dans le titre, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a effectué hier mardi une mission dans plusieurs postes frontaliers de la province du Congo central. Objectif, lutter contre la contrebande et les pratiques informelles qui privent l'État congolais des moyens nécessaires à sa politique. Cette tournée l'a conduit successivement au poste frontalier de Noki, situé dans le quartier Angouango à Matadi, au port de la Société congolaise des ports et des pêches, Sokop, puis au poste de Lufu. Selon Daniel Moukoko Samba, une feuille de route convenue avec le gouvernement angolais permettra de concrétiser les engagements pris conjointement, notamment en matière de simplification du commerce transfrontalier, d'harmonisation des procédures douanières et des systèmes de paiement. Le but est de faciliter les transactions financières entre les opérateurs économiques des deux pays, tout en renforçant la lutte contre la contrebande et les pratiques informelles. Un extrait de cette déclaration, choisi par Blaise Sindani Kambala, illustre ses propos.
Cette mission, d'abord, il faut la replacer dans son contexte. Elle fait suite au troisième forum économique entre la RDC et l'Angola. Nous avions convenu de mettre en place une feuille de route pour qu'elle nous permette de réaliser les engagements que nous avons conjointement pris, les engagements pour la simplification du commerce transfrontalier, pour l'harmonisation et la simplification des procédures douanières, pour l'harmonisation des systèmes de paiement afin de faciliter les transactions financières entre les opérateurs économiques des deux pays. Et tout ceci dans le but de lutter contre la contrebande et d'autres pratiques informelles qui malheureusement pour le moment dominent les échanges commerciaux entre nos deux pays. C'est la raison pour laquelle donc j'ai tenu, à titre d'échantillon, à visiter ce jour deux postes frontaliers, le poste de Noki à Matadi et ce poste de Lufu qui est l'un des plus importants postes douaniers dans le Congo central.
Et puis la commission de la concurrence COMCO, en collaboration avec l'autorité congolaise de réglementation pharmaceutique Aquarep, informe le public de la fermeture immédiate de l'usine Revin SARL située sur la première rue à Kinshasa Limité. Cette décision fait suite à la découverte d'une substance non autorisée et nocive pour la santé, le sildenafil, introduite clandestinement dans la boisson énergisante appelée Power Plus et vendue sous le nom commercial des Moutous Rouges, sans mention sur l'étiquetage et à des doses toxiques. Ce produit expose les consommateurs à de graves risques pour la santé, notamment des troubles cardiaques pouvant entraîner la mort. La COMCO l'a fait savoir dans un communiqué publié le 27 avril. Plus de détails avec vous, John Thibois-Bois.
Dans ses communiqués, la commission de la concurrence rappelle qu'en vertu du décret numéro 25/32 du 10 octobre 2025 portant statut, organisation et fonctionnement de la commission de la concurrence, en sigle COMICO, est là notamment pour mission d'éveiller à la protection des consommateurs en luttant contre les pratiques commerciales frauduleuses et les produits suspectibles de porter atteinte à leur sécurité. Cette action s'inscrit dans un cadre plus large des coopérations interinstitutionnelles propulsées par le vice-ministre, ministre en charge de l'économie nationale, en vue de renforcer la protection des consommateurs, indique ses communiqués. À ce titre, les autorités appellent la population à cesser immédiatement toute consommation de cette boisson et à signaler tout point de vente continuant à la distribuer. La COMICO réaffirme que la santé publique n'est pas négociable. Une enquête judiciaire est en cours afin d'établir les responsabilités, conclut les communiqués.
Sous un autre chapitre, la population de cette île, Mundubiena et Kahi Munda du quartier Sayo, situé à près de 20 km à l'ouest de la ville de Beni, éprouve de sérieuses difficultés d'accès aux soins de santé. En cause, la seule structure sanitaire de la zone n'est pas opérationnelle depuis 2 ans. Le chef de ce quartier lance un appel aux autorités pour une intervention urgente. Marc Marofimbo nous en dit plus.
C'est depuis la dernière attaque armée survenue au mois de mai 2024 que les cellules de Mundubiena et Kahirimunda s'étaient vidées de leurs habitants. Une situation qui avait entraîné la fermeture du seul dispensaire de la zone, privé à la fois des patients et des personnels soignants, contraint de quitter le milieu pour des raisons sécuritaires. Avec le retour progressif et massif de la population depuis l'année dernière, l'accès aux soins reste un véritable casse-tête. Les habitants sont désormais obligés de parcourir de longues distances pour se faire soigner, soit à Mangina, soit en ville de Beni. Une situation aux conséquences parfois graves, des cas de décès maternels ont déjà été signalés, liés notamment à l'éloignement des structures sanitaires. Face à cette réalité, le chef du quartier Sayo plaide pour la réouverture de la structure sanitaire locale et son approvisionnement en médicaments essentiels. Flavien Mouindo Nzanzu.
Ça ne fonctionne pas suite à la sécurité de 2024. Il y avait vraiment un massacre de la population ici en 2024. Il faut que nous ayons des médicaments et le personnel soignant. Je vais supplier d'abord au médecin chef de zone, le maire de la ville ainsi que le bourgmestre de faire le plaidoyer aux humanitaires pour que cette situation soit résolue.
À noter que les cellules de Mundubiena et Kahirimunda comptent plus de 4000 habitants, majoritairement des personnes retournées. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
La structure de la société civile Debout Congolais pour le développement durable, DCDD, active dans les territoires de Dibaya au Kasaï central, déplore l'absence des juges au tribunal de grande instance de Timbulu. Dans une déclaration faite hier mardi à Kananga, cette structure souligne que depuis 2 ans, aucune audience n'a été organisée faute de magistrats. Les détenus sont ainsi contraints de rester au cachot dans des conditions précaires sans connaître leur sort, y compris ceux arrêtés pour des fins mineures. Les DCDD appellent les autorités judiciaires à trouver en urgence une solution afin de rétablir ces détenus dans leurs droits. Suivez l'extrait de cette déclaration lue par Martin Moutela, coordonnateur territorial du DCDD, au micro d'André Katende Ngalamouloumé.
Ce tribunal qui englobe dans son sein 5 territoires, dont Dibaya, Ndemba, Kazumba, Djimbeleng et Luza, héberge plus de 60 détenus dont leurs conditions de vie est précaire. Pour siéger, il faut 3 juges. Chose grave, il n'y a qu'un seul juge. Environ 2 ans, le tribunal de grande instance de Timbulu ne siège pas comme il se doit par manque de personnel judiciaire. Nous sollicitons par ailleurs l'appui du gouvernement tant provincial que national pour sauver les vies de ces détenus. Ces derniers sont souvent victimes de multiples violations de leurs droits les plus élémentaires. Beaucoup sont par ailleurs détenus de manière illégale et non accès à l'appui judiciaire qui leur permettrait de faire valoir leurs droits. La détention à Timbulu viole les libertés fondamentales inscrites aux articles 5 portant sur la torture et 9 sur la détention arbitraire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous lançons un cri aux autorités tant provincial que national, de résoudre cette énorme difficulté au tribunal des grandes instances de Timbulu.
Dans la province du Tanganyika, présentation hier mardi à Kongolo des 6 présumés voleurs, dont un mineur et une femme. Ces personnes sont accusées de vol. L'administrateur du territoire de Kongolo salue le travail des services de sécurité qui ont mis la main sur ces présumés voleurs. Il annonce que ces personnes seront déférées devant la justice pour qu'elles répondent de leurs actes. On écoute Jean-Paul Ngongo, administrateur du territoire de Kongolo, dans cet extrait choisi par Paul Mounanga.
Ce dernier moment, on a vu un signe d'insécurité et le cas de vol dans le milieu, le vol à répétition. Voilà pourquoi j'ai mobilisé la police. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on doit vivre dans cette insécurité? Avec l'information de la communauté, le partenariat que nous sommes en train de faire suite à ma séance d'itinérance dans les quartiers pour une sensibilisation à la lutte contre la délinquance, on a eu les informations de la communauté qu'il y a des voleurs. Et effectivement, il y a des voleurs qu'on a attrapés la main dans le sac parce que les matériels volés, les preuves tangibles sont là. Leur mode de vol, il arrive chez vous, derrière votre maison, il détruit le mur. Et après la destruction de ces murs-là, ils entrent, ils opèrent. Le dernier cas ici, ils ont volé les sacs de ciment. Il y a dans un dépôt où on a volé 13 sacs, ils volent du carburant et il y a ceux-mêmes qui se permettent d'entrer dans d'autres maisons, ils volent le matériel de la maison. Le mineur là a été attrapé de main dans le sac, il a volé l'écran dans une maison de Dr Watent. Et le CRA était là, il s'est pénétré dans la maison. Celui-là aussi sera conduit à son juge naturel qui est chargé de juger les mineurs.
Actualité internationale.
Paris recommande à ses ressortissants de quitter temporairement le Mali dès que possible. La France recommande à ses ressortissants présents dans ce pays de prévoir un départ temporaire dès que possible par les vols commerciaux encore disponibles, selon des consignes du ministère des Affaires étrangères actualisées et publiées ce 29 avril.
L'invité.
Il s'agit du docteur Joël Matondo, assistant technicien au programme national de lutte contre le paludisme PNLP au Congo central. Il parle de la sensibilisation des autorités locales et des différentes composantes de la population du Congo central à l'occasion de la célébration le 28 avril de la Journée internationale de lutte contre le paludisme. Depuis Matadi, le docteur Joël Matondo s'exprime au micro de Lise Kavira.
Docteur Joël Matondo, bonjour.
Bonjour madame.
Je m'entretiens avec vous aujourd'hui après la rencontre de sensibilisation organisée par le PNLP à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Dites-moi docteur, quel est le message que vous avez voulu passer à travers ce programme?
En fait, le message, il est simple. C'est que nous avons le paludisme comme problème de santé publique au regard des statistiques alarmantes que la province et même les pays produisent chaque année. Et donc aujourd'hui, c'est de faire voir à la population que l'espoir de l'élimination, il est là au travers de l'arsenal des outils d'élite que nous avons. Et donc, nous avons le devoir de parvenir à l'élimination du paludisme comme problème de santé publique.
Depuis combien de temps le vaccin contre le paludisme est administré ici, au Congo central?
Nous avons intégré les vaccins contre le paludisme vers fin 2024 et l'impact, il est considérable aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne va pas les mettre sur le compte du vaccin seul parce que la stratégie d'élite, c'est la combinaison des interventions. Mais déjà, du moment où nous avons intégré les vaccins dans le calendrier vaccinal, nous observons un fléchissement presque spectaculaire de l'incidence du paludisme et même de la mortalité due à la malaria.
Quelle est la part de la population?
En fait, il faut qu'il y ait une appropriation, une adhésion collective de la population vis-à-vis des interventions d'élite. Donc, puisque les moustiquaires sont distribués en routine, tout comme lors des campagnes, il faut que la population s'en approprie. Il faut que la population s'approprie de la chimioprévention du paludisme pérenne, du vaccin contre le paludisme. Il faut que la population puisse fréquenter les services de santé pour aller chercher les traitements contre le paludisme et éviter tout ce qui peut porter atteinte à la lutte, comme par exemple l'automédication.
Après toutes ces années d'études et des stratégies mises en place, comment expliquez-vous cette résistance du paludisme? Est-ce qu'il y a une nouvelle race d'anopheles qui résiste aux insecticides? Est-ce que ce sont les traitements qui ne sont finalement plus efficaces? Comment vous expliquez cela?
Alors, madame, c'est une question très importante. Vous savez, sur la voie des progrès, il y a toujours des entraves. Et nous pouvons citer notamment l'émergence de la résistance du moustique qui cause la maladie vis-à-vis de l'insecticide et l'imprégnation des insecticides sur les moustiquaires, mais aussi sur les murs des ménages. Et donc, quand les vecteurs de la maladie commencent à résister, et donc ça vient dans une certaine mesure pas annuler, mais émousser les efforts. Nous avons aussi la résistance des médicaments. Les médicaments qui nous aident à traiter les maladies commencent à poser des problèmes de résistance pour certaines personnes. Et tout ça, ce sont des entraves que nous avons sur la route.
En termes de chiffres, à combien est évalué le taux de mortalité dû au paludisme depuis 2025, par exemple?
En termes de chiffres, c'est plus de 1300 décès que nous avons enregistrés en 2025. Mais en termes de l'indicateur qu'on mesure, les 1300 décès représentent 27 décès dus au paludisme pour 100 000 habitants exposés à cette maladie.
Quelles sont les zones les plus touchées par le paludisme de la province du Congo central?
Il y a 6 zones de santé qui sont les plus touchées. À Matadi, nous avons des zones de santé, la zone de santé Matadi et de Nzanza, mais la zone de santé qui rapporte le plus grand nombre de cas, c'est la zone de santé de Matadi.
Quelles sont les perspectives et objectifs du PNLP d'ici 2030?
Pour cette année, nous devons accélérer les efforts vers l'atteinte de l'objectif intermédiaire que nous devons accomplir en 2028. Ou bien on reste dans la même dynamique pour qu'à l'horizon 2030, que nous soyons aussi comptés parmi les régions qui auront à éliminer les paludisme comme problème de santé publique.
Docteur Joël Matondo, merci.
Non, c'est moi qui vous remercie, madame.
C'était notre invité, le docteur Joël Matondo, assistant technicien au programme national de lutte contre le paludisme PNLP au Congo central. Il s'entretenait depuis Matadi avec Élise Kavira. Et c'est la fin de ce journal qui a été préparé par Alain Irung, Élise Chikota et Jude Mister Bilanda. Pierre Diassinois et André Mongou ont assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.